tout un monde. Éric Guevara Frey.
L'échec considérable de l'Irak.
Bonjour, à quoi ressemblerait la politique étrangère d'un président Donald Trump? Entre démantèlement de l'OTAN et renégociation des alliances, réponse avec son conseiller Walid Fares, il est l'invité de tout un monde. Les banques centrales ont déclaré la guerre au cash, suppression des gros billets, plafonnement des transactions, etc. Mais elles ont plus peur de vous que des grands trafiquants. Et puis les femmes à la tête des plus grandes entreprises gagnent plus que les hommes au même poste, nous dit une étude. Ah bon? C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Bienvenue! Dans les coulisses diplomatiques, l'éventualité de voir Donald Trump entrer à la Maison-Blanche provoque une certaine agitation. Si l'on en croit nos confrères américains, les responsables gouvernementaux à Washington sont assaillis de questions paniquées en provenance du monde entier sur le mode « Rassurez-nous, dites-nous que la politique étrangère des États-Unis est stable ». Crainte attisée par les déclarations du candidat républicain quasiment investi qui veut renégocier les alliances traditionnelles de son pays ou encore qui qualifie l'accord sur le nucléaire iranien de « désastre ». En plus, il a certes une longue expérience internationale mais qui se limite à celle d'un homme d'affaires. Alors, à quoi le monde doit-il s'attendre si Donald Trump est élu? Et d'abord, où en est son niveau de connaissance? Question posée à un homme qui le conseille en matière de politique internationale, le professeur Walid Fares.
C'est un niveau qui s'élève de plus en plus, qui prend de l'altitude à cause précisément du fait qu'il est entouré maintenant par un grand nombre de conseillers. Quand on a commencé il y a quelques mois, on était seulement 5, maintenant nous sommes quelques dizaines. Mais comme vous l'avez bien précisé, M. Donald Trump a eu une expérience très longue, la plus longue probablement aux États-Unis, comme homme d'affaires international, mais comme homme d'affaires qui aussi avait des relations avec des hommes politiques, avec des femmes politiques, avec des premiers ministres, des présidents, des rois, un peu partout dans le monde. Et parfois, dans les confidences entre les hommes d'affaires et les hommes politiques, on apprend beaucoup de choses. Mais encore plus important maintenant, c'est que M. Trump a évolué. Il a évolué certainement depuis qu'il a lancé sa première candidature en 2012 et encore l'année passée, en 2015. Il a appris à cause de ses rencontres, pas seulement avec les conseillers, mais aussi les membres du Congrès, ceux qui sont en charge des comités de relations internationales, de défense, de renseignement, etc. Il a encore beaucoup à faire, bien sûr, beaucoup à apprendre. N'importe quel politicien, comme le sénateur Obama, avant qu'il ne soit sénateur, n'avait pas beaucoup d'informations. Quand il est à la Maison-Blanche, les agences, les départements d'État, si vous voulez, et d'autres, se chargeront de cette information.
Quels sont les principes sur lesquels s'appuierait ou s'appuiera une politique étrangère de Donald Trump? Est-ce que ça changerait radicalement de la politique étrangère américaine telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant?
Comme un professeur de sciences politiques, je pourrais dire, sa voie, c'est la voie fonctionnaliste. Il commence d'abord par déterminer quels sont les intérêts supérieurs, les intérêts nationaux, économiques, politiques, sécuritaires des États-Unis, premièrement, mais il ne va pas s'arrêter là. M. Trump n'est pas un isolationniste. Il veut s'assurer du bon fonctionnement des institutions, de l'économie, de la défense nationale des États-Unis, premièrement, mais le second cercle concentrique, c'est de faire une révision, si vous voulez, de toutes les relations avec nos amis, avec nos alliés. Et cette révision n'est pas un retrait, parce que la plupart de ces alliances, de ces traités, sont nés durant la guerre froide. Beaucoup de choses ont changé. C'est pour cela qu'il veut renouveler toute cette politique internationale étrangère des États-Unis. Il ne veut pas la détruire.
Mais vous voyez que ça n'est pas très rassurant pour les alliés en question, notamment ceux dont il dit qu'ils vont devoir payer pour leur protection ou se défendre eux-mêmes, contrairement à ce qui se passe jusqu'à maintenant. Ça a suscité une immense inquiétude et ça suscite toujours une immense inquiétude dans ces pays.
Cela est vrai, mais pour rassurer les alliés, M. Trump et ses conseillers ont bien exprimé leur position. Il n'y a pas de retrait du monde, il y a une réorganisation de ces relations. En ce qui concerne la contribution financière, eh bien, le débat lui-même existe à l'intérieur de l'Europe. Les membres de l'OTAN à l'intérieur de l'Europe, et moi, j'ai été plusieurs fois à Bruxelles, j'ai rendu visite à des membres du Parlement européen, nous savons que même à l'intérieur du flanc européen de l'OTAN, il y a des discussions financières et économiques. Ce que M. Trump a fait, c'est de les débattre en public, de dire le principe et qu'il y ait une contribution proportionnelle pour tous ces gouvernements, pour tous ces pays. Mais quand il va s'asseoir sur la table de négociation, il y aura des négociations. Il ne veut pas démanteler ces alliances, mais il veut les réorganiser.
Donc Donald Trump a dit plusieurs fois que l'OTAN était obsolète. C'est le principe de l'alliance qu'il remet en cause ou c'est seulement la structure, seulement l'organisation?
C'est cette OTAN, dans le sens que l'organisation actuelle dépense beaucoup d'argent. Il y a des bureaucraties énormes, ça c'est vrai. Et donc il veut la rendre un peu plus légère. Il veut aussi négocier avec ses partenaires de l'OTAN sur les stratégies. Les stratégies de l'OTAN étaient décidées contre l'Union soviétique. Il n'y a plus d'Union soviétique, il y a une Russie. Donc il faut voir comment faire avec cette Russie. Il y a aussi les menaces montantes quand même des djihadistes, pas seulement en Syrie, en Irak, en Afrique du Nord. Mais maintenant, les djihadistes sont en train de frapper à Paris, à Bruxelles, à Londres, partout. Donc sa conception est d'une nouvelle organisation de l'OTAN qui sera aussi forte, même plus forte, mais qui soit plus intelligente, plus efficace, plus fonctionnelle.
Mais nouvelle, comment alors, avec d'autres partenaires ?
Il va essayer de voir si d'autres partenaires peuvent faire partie, mais le plus important, il va aussi essayer de s'associer avec d'autres alliances. Il n'y aura pas seulement l'OTAN. Il veut qu'il y ait des négociations pour voir si les pays arabes modérés peuvent former leur propre OTAN, pour pouvoir confronter l'EI. Il y aura aussi des discussions possibles avec des États africains pour former leur propre alliance régionale. Et donc l'ensemble de toutes ces alliances régionales avec l'OTAN formeront ce nouveau dispositif sécuritaire international qui pourra confronter tous les défis, pas seulement le terrorisme, mais aussi le défi des questions nucléaires aussi.
Alors vous avez parlé tout à l'heure du djihadisme, le groupe État islamique que Donald Trump promet d'éradiquer, c'est aussi à vrai dire une priorité affichée par le gouvernement actuel, le gouvernement Obama. Que ferait Donald Trump différemment ?
Là il y a de grandes différences. L'administration Obama parle de containment, ils veulent contenir. Ils n'ont pas encore parlé de démantèlement complet de l'État islamique parce qu'il n'y a pas encore de stratégie. Et l'administration Obama ne tardera pas à partir. Dans quelques mois, elle sera en état de transition. Une administration Trump, au moins, déclare qu'il doit y avoir un démantèlement sur le terrain. Donc les villes qui sont contrôlées par l'État islamique, les villages, les réseaux, tout cela doit être démantelé. La grande question, en fait, n'est pas le principe. La grande question est à propos comment le faire, avec quelle force. Bien sûr, nous savons qu'il y a une opposition aux États-Unis en ce qui concerne la question d'utiliser des forces sur le terrain. Monsieur Trump le sait. C'est pour cela précisément qu'il veut s'engager avec des alliés sur le terrain. Nous avons des partenaires qui ont des armées régulières tout à fait entraînées, qui sont bien équipées. On parle des Émirats Unis, de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, probablement de l'Égypte. Donc la formation d'alliances régionales appuyées par les États-Unis, par l'OTAN et même par la communauté internationale pour pouvoir détruire les installations de l'État islamique. Mais le plus important encore, c'est pas seulement une offensive terrestre. Qu'est-ce qui va se passer après ? Qui va prendre le pouvoir dans les régions de l'État islamique ? Tout cela fait partie de la doctrine ou, disons, de la stratégie de M. Trump. Il voudrait bien qu'il y ait des forces modérées qui soient entraînées avec un consensus régional.
Autre grand dossier international, c'est l'accord sur le nucléaire iranien. Donald Trump l'a souvent qualifié de désastre. Il dit que c'est un désastre. Est-ce qu'il essaierait de le dénoncer ? Est-ce qu'il essaierait, si c'est possible, d'en sortir les États-Unis ?
C'est un peu plus nuancé ici. M. Trump, il ne va pas déclarer immédiatement qu'il va arrêter. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander aux Iraniens de renégocier, qu'il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas été négociés, que l'application de ce traité n'a pas été faite. Les Iraniens sont en train de recevoir des sommes énormes, de l'argent libéré, de l'argent iranien libéré, mais en contrepartie, ils ne sont pas en train d'appliquer le traité. Et d'autre part, ils sont en train de s'étendre de plus en plus dans la région, en Irak, en Syrie, avec le Hezbollah au Liban, et donc aussi de faire pression sur nos partenaires arabes. Donc le début du processus va être une révision de ce traité. Il va probablement le renvoyer au Congrès, mais de là à savoir qu'est-ce qui va se passer dans la phase 2 ou 3, on ne saura pas. Il n'est pas très content parce qu'il pense que ce traité a été fait rapidement par l'administration, sans l'accord du Congrès et sans l'accord du public américain.
Beaucoup de gens reprochent à Donald Trump une simplification extrême de dire « je vais aller parler aux Russes, je vais aller parler aux Chinois et puis tout sera réglé ». Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je leur répondais d'aller relire un peu les discours et les déclarations du président Obama, qui, en étant un sénateur, a aussi joué la carte populiste, mais du côté de la gauche, bien sûr. Monsieur Trump joue la carte populiste du côté de la droite et du centre. Donc, les candidats politiques aux États-Unis dans les primaires, ils ne donnent jamais des lectures ou bien des conférences sur les relations internationales avec beaucoup de détails. C'est seulement après le fait qu'ils ont été élus par leur parti et certainement après le fait qu'ils ont été élus comme président, qu'ils commencent à donner beaucoup de détails. C'est vraiment des discours qui sont destinés à avoir l'appui de la base populaire. Et dans le cas de M. Trump, okay, il est beaucoup plus populiste que M. Obama. Il s'adresse à des gens qui n'ont jamais voté, des millions de gens qui n'ont jamais voté. Donc, ce qui explique un peu la simplicité de ses propos. Mais quand il lit des discours de politique internationale, que ce soit les deux discours qu'il a donnés ici à Washington ou les discours qui vont venir, on voit qu'il y a une différence, on voit qu'il y a une structure.
Quand il a dit qu'il voulait interdire aux musulmans d'entrer sur le territoire américain, ça, c'était de la rhétorique de campagne ou c'est toujours valable et c'est quelque chose qu'il est prêt à mettre en œuvre s'il arrive à la Maison-Blanche?
Ça, c'est un grand débat ici aux États-Unis. M. Trump, dans son historique, c'est pour ça qu'on commence par les racines, il n'a jamais écrit de livre, ni d'article, ni tenu des propos qui sont racistes, anti-musulmans ou anti n'importe quel groupe collectif. C'est un businessman, par nature, un businessman n'est jamais contre un groupe ou une communauté. Ce qui s'est passé, c'est que M. Trump a vu qu'il y a une grande pression de la part de cette base populaire, surtout après les attaques à Paris, à San Bernardino, ici aux États-Unis, mais toutes ces cellules djihadistes qui bouillonnent un peu partout en Occident. Il a fait cette déclaration. Le plus important, bien sûr, de cette déclaration, c'est la deuxième partie qui n'a pas été bien comprise. Il a dit en anglais, « We don't know what's going on », on ne sait pas ce qui se passe. Donc ce n'est pas une position contre les musulmans. Il veut préserver la défense et la sécurité. Et il a dit, si j'ai des alternatives, si l'administration, si les agences me donneront le pouvoir, la capacité d'identifier qui sont les djihadistes et qui ne le sont pas, je vais bien sûr choisir cette alternative. Il a répété cette déclaration il y a une semaine ici. Je pense que M. Trump va, avec une coordination très serrée avec les pays arabes modérés, pouvoir créer un réseau international qui pourra identifier et donc aller contre les éléments extrémistes. Il n'est pas anti-musulman, il n'est pas anti-race, il n'est pas anti-ethnique.
Walid Fares, conseiller de Donald Trump pour la politique étrangère, il est également conseiller auprès du Congrès américain. Qui a peur de l'argent liquide, des billets de banque? Récemment, la Banque Centrale Européenne a décidé de supprimer le billet de 500 euros. Motif avancé, lutter contre le crime. Mais, Frédéric Mamaïs, dans cette guerre ouverte contre le cash, eh bien, l'ennemi n'est pas celui qu'on pense.
Et non, les États et leurs banques centrales ont sans doute davantage peur en ce moment des petits épargnants que des grands trafiquants. Nous allons voir pourquoi. L'une des nombreuses figures de proue de cette guerre contre l'argent liquide, c'est Lawrence Summers, l'ancien responsable du Trésor américain sous Bill Clinton, ex-conseiller de Barack Obama. Il signait la semaine dernière une tribune dans le Financial Times. Larry Summers félicitait la BCE pour sa volonté de retirer une coupure que la majorité des citoyens européens n'ont d'ailleurs jamais effleurée, le billet de 500 euros, cette monnaie du crime. L'économiste rappelle aussi toutes les mesures prises pour réduire les flux d'argent liquide. En Italie, vous ne pouvez pas effectuer de transactions en cash de plus de 3000 euros. En France, c'est 1000 euros. Aux États-Unis, le billet de 500 dollars a été retiré en 1969 déjà. Cette coupure n'est plus imprimée depuis 70 ans. Mais attention, vous pourriez tout de même encore croiser le visage de William McKinley, le 25e président des États-Unis assassiné à Buffalo en 1901, puisque le 500 dollars a toujours cours légal.
Mais tout ça a vraiment un effet sur les activités criminelles?
Eh bien, Larry Summers le reconnaît, il est très difficile d'anticiper quel sera l'impact de l'abolition du 500 euros. C'est tout de même un premier pas, déclare-t-il, visiblement un peu à court d'arguments ou à court de lignage dans le Financial Times. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, car même après avoir retiré sa coupure de 500 euros, la BCE continuera d'émettre des billets à la valeur faciale deux fois supérieure à celle du reste des pays du G7. Et ensuite, ajoute Larry Summers, le monde devra s'attaquer à la Suisse. Tiens, ça faisait longtemps. Pas aux banques suisses, mais aux billets de 1000 francs, la deuxième plus grosse coupure au monde, derrière le 10 000 dollars de Singapour, qui représente environ 7 000 francs.
Oui, mais alors là, contrairement à la BCE, la Banque Nationale Suisse n'est pas prête d'abolir sa plus grosse coupure.
Et non, il n'y a qu'une chose qui fera disparaître l'historien Jacob Burckhardt, c'est la prochaine série de billets de 1000 francs. Le 1000 francs, c'est la star, on se l'arrache. C'est un peu difficile à croire, j'en conviens, car il passe en général rarement entre nos mains. Et pourtant, le nombre de Burckhardt en circulation l'inflation a triplé en 20 ans. Il y en a pour plus de 41 milliards de francs, c'est 60% de la masse monétaire en Suisse. Et la demande accélère depuis décembre 2014, depuis que la BNS a introduit les taux négatifs. Théoriquement, votre épargne coûte de l'argent, même si les banques en règle générale n'appliquent pas ces taux aux particuliers.
Ah, attendez Frédéric, les banques centrales injectent des montants astronomiques de liquidités dans le système financier, mais elles ne veulent pas d'argent liquide. Expliquez-nous ça.
Oui, eh bien, l'élimination du cash est un objectif des politiques monétaires interventionnistes qui embrassent en même temps une tendance plus large. Explication de John Plassard, directeur adjoint chez Mirabeau Securities.
Dans un monde sans liquidité théorique, eh bien, elle pourrait imposer plus ou moins fortement la taxation des avoirs pour inciter, par exemple, à la dépense et aux investissements. Donc, en définitive, les banques centrales pourraient avoir une gestion de la consommation. C'est plutôt une tendance qui se met en place, puisqu'on voit que dans les pays du Nord, la tendance est déjà bien présente. On dit qu'un tiers des Danois, par exemple, ont renoncé à l'argent physique. On voit d'autres pays comme la Finlande et la Norvège qui organisent des journées sans liquidité, donc ils font la promotion de ces paiements électroniques, mais on ne peut pas nier, c'est ce qui est très important, qu'il y a des exceptions culturelles évidemment qui vont retarder cette échéance, puisqu'on sait que la France, par exemple, plus de 85% des habitants souhaitent conserver la monnaie physique, donc il ne faut pas oublier qu'il y a cette exception culturelle qui devrait laisser encore un peu d'argent liquide pour quelques années.
En fait, le Badlen fait de la résistance.
Oui, de la résistance à des Larry Summers ou Kenneth Rogoff. Le premier soutien des ambitions hégémoniques. Il milite pour que le G20 interdise dans le monde toutes les coupures supérieures à $50. Son confrère de Harvard, lui, veut tout simplement supprimer l'argent liquide. Alors les épargnants ont à leur côté tout un courant d'économistes historiquement méfiants à l'égard des banques centrales. Des banques centrales déjà accusées de voler les épargnants en dévaluant la monnaie à coup de politiques expansives. Elle veut encore éliminer cette dernière poche de liberté qu'est l'argent liquide.
Et l'argent représente la liberté, représente aussi la confiance.
Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de billets en circulation augmente moins vite que le PIB nominal en Suisse. Mais depuis 2007 et la crise financière, la tendance s'inverse. L'argent, c'est la confiance et qui sait, peut-être aussi la vertu. Andreas Oeffert, le chef économiste du UBS, décédé l'an dernier, avait un jour déclaré dans une tribune à la Weltwoche qu'en enfer, il n'y a pas de cash.
Il paraît. Merci beaucoup Frédéric Mameis.
Tout un monde. Éric Guevara Frey.
Voici une étude qui surprend. Quand elles dirigent les plus grandes entreprises, les femmes sont mieux payées que les hommes. Une étude publiée par le cabinet Equilar qui porte sur les 100 plus grandes entreprises américaines. Alors, il faut dire tout de suite, il n'y a que 8 femmes dirigeantes, 8 femmes CEO sur 100, mais elles affichent un revenu total moyen et médian plus élevé que celui des hommes, tendance qui se confirme si on prend les 500 plus grandes entreprises. Y a-t-il un piège dans ces chiffres ou est-il temps de revoir quelques idées reçues? Et d'abord, les femmes CEO sont-elles mieux payées parce qu'elles sont si peu nombreuses? Réponse d'Alain Salamin, chargé de cours à HEC Lausanne et spécialiste en rémunération.
Non, alors je pense pas. Je pense au contraire, c'est pas une question de rareté. C'est pas la rareté qui fait le prix dans ce cas-là. Mais en fait, le premier facteur, c'est l'industrie dans laquelle on est. On sait qu'il y a des industries qui payent plus que d'autres. Donc typiquement, tout ce qui est finance, tout ce qui est pharma va payer plus que tout ce qui est grande distribution. Deuxième facteur, c'est aussi la performance de l'entreprise. Parce qu'on sait que dans ces postes-là, on a à peu près 20-25% de salaire fixe et tout le reste, c'est du salaire variable. Donc sur une année, on peut avoir un effet de bord où on a par hasard les entreprises dirigées par les femmes qui ont une performance qui va être meilleure que les entreprises en moyenne dirigées par les hommes. Et donc, vu que le salaire variable lié à la performance est très important, d'une année à l'autre, on peut avoir des grandes variations. Et puis, le troisième facteur, qui est quand même aussi important, c'est la taille de l'entreprise. Parce que la taille de l'entreprise détermine les responsabilités de la personne. Et donc, plus la taille est grande, plus l'entreprise est importante. Et plus le poste en question va être rémunéré. Donc on voit qu'il y a plein de facteurs sous-jacents qu'il faut prendre en compte pour qu'on s'assure que ce ne soit pas juste un aspect uniquement homme-femme.
Oui, parce que tous ces facteurs que vous nous donnez, ils sont aussi valables pour les hommes qui sont actifs dans ces entreprises-là, à ces niveaux-là.
Oui, alors justement, si on veut arriver à démontrer que les femmes gagnent plus que les hommes, il faudrait le voir de manière longitudinale, c'est-à-dire observer ces chiffres sur plusieurs années et puis sortir donc ces facteurs que je viens d'évoquer pour voir si c'est vraiment la dimension sexe qui fait la différence. Donc on ne peut pas, sur une étude en elle-même, arriver à des conclusions finales. Il y a déjà déjà des signes, hein. C'est pas probablement pas un hasard si c'est le cas, si on a des femmes qui sont mieux payées en moyenne, mais pour pouvoir être conclusif, il faut pouvoir le faire sur plusieurs années et bien démontrer que c'est la variable homme-femme qui fait la différence et pas les autres.
Est-ce que le fait que la plupart de ces femmes, en l'occurrence, ont grimpé les échelons de leur entreprise jusqu'au sommet, c'est-à-dire qu'elles ont, à quelques exceptions près, elles n'ont pas été recrutées de l'extérieur, est-ce que ça joue un rôle ?
Oui, ça, je pense que ça peut jouer un rôle, effectivement, parce que ça veut dire qu'on a un système de méritocratie en interne où on a des femmes qui ont réussi à démontrer leurs capacités, qui ont réussi à démontrer leur dimension stratégique, leur dimension de gestion et qui sont arrivées à travers toutes les différents obstacles que l'on peut avoir en interne à démontrer leur valeur. Donc oui, c'est plutôt un bon signe parce que ça veut dire qu'elles ont pu, à la longue, sur la durée, démontrer en interne leurs capacités et donc accéder à ces postes-là.
Alors on comprend bien que pour pouvoir conclure de façon définitive que les femmes dirigeantes d'entreprise sont mieux payées que les hommes parce qu'elles sont des femmes, il faudrait isoler les variables, hein, voir les choses un peu différemment, c'est ce que vous nous expliquez.
Oui.
Est-ce que néanmoins il y a au sommet des grandes entreprises une tendance à évacuer de toute façon la variable genre et puis au fond à traiter les gens pour ce qu'ils font et leur performance sans avoir de biais défavorables à l'encontre des femmes comme on le voit de façon beaucoup plus générale dans le monde du travail?
Oui, alors là, effectivement, clairement, en tout cas pour ces niveaux-là de responsabilité, et même d'ailleurs, je dirais en étant un peu provocateur, pour les niveaux en dessous, n'importe où dans l'entreprise, on a actuellement de nos jours plus aucune excuse pour faire une discrimination, c'est-à-dire avoir des critères discriminatoires qui créent une différence. Donc, clairement, je pense qu'on est dans un monde actuellement où on a tous les outils en termes d'évaluation de fonction, en termes de peser des responsabilités, des impacts des différentes fonctions, on a suffisamment de moyens pour s'assurer que les femmes soient payées pour des postes et des responsabilités égales avec des formations correspondantes, exactement des salaires comparables. Et donc le fait qu'on soit dans ces positions les plus élevées dans l'entreprise, on a en fait une raison de plus pour éviter cette discrimination, c'est la transparence des salaires, parce qu'on sait que dans la plupart des pays occidentaux, et notamment aux États-Unis, on a l'obligation de publier les salaires individuels des 5 personnes gagnant le plus dans l'entreprise. Et donc, avec la visibilité et la disponibilité de toutes ces données, c'est très facile de faire des études. Et donc, une entreprise qui, de manière consciente, voudrait sous-payer une femme parce qu'elle est une femme, ce serait immédiatement visible et ça serait quelque chose qui serait justement pas acceptable à cause de cette transparence.
Donc l'exemple peut ou doit venir par le haut, en fait.
Oui, l'exemple doit venir par le haut, absolument. Et on est dans un contexte où si on a des inégalités qui viennent du haut, ben on a toutes les chances d'avoir ces inégalités qui se répercutent vers le bas. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a des entreprises énormes comme Google, par exemple, où le patron gagne 1 franc par année. Larry Page, dans l'exemple de Google, qui veulent justement montrer que eux, ils ont une vision différente du salaire et que c'est pas parce qu'ils sont patrons que nécessairement ils doivent gagner 300 ou 400 fois plus que l'employé le plus mal payé de l'entreprise.
Alain Salamin, chargé de cours à HEC Lausanne, spécialiste en rémunération. Pour terminer cette émission que vous pouvez écouter, réécouter, podcaster sur rtsinfo.ch. Écrivez-nous aussi, envoyez-nous des emails, tout un monde en un seul mot, @rts.ch. Il est 8h presque 34 et c'est l'heure des infos de Yann Amédro. À demain.
Des dizaines d'athlètes vraisemblablement privés des Jeux de Rio. Déclaration ce matin du président du CIO Thomas Barr dans les colonnes du Monde. Après les accusations de l'ancien patron de l'agence russe antidopage sur les Jeux de Sochi, le comité olympique a repris toutes les analyses des derniers Jeux. Verdict pour ceux de Pékin en 2008, 31 cas positifs sur des sportifs de 12 pays. Aucun nom n'a filtré. Suzuki aussi a menti. Après Mitsubishi, le constructeur automobile japonais reconnaît ce matin à son tour avoir utilisé des méthodes trompeuses de mesure de la consommation de carburant de ses véhicules. Son président prendra la parole devant la presse dans une demi-heure. Les cantons romands débordés par le nombre de requérants d'asile déboutés. Nous vous le révélions dans le journal de 7h. Il manque une 50aine de places de détention administrative. La pénurie est particulièrement forte à Genève. Nous resterons dans la course jusqu'au bout. La détermination de Bernie Sanders, le sénateur démocrate du Vermont, a remporté la primaire de l'Oregon cette nuit. Il a fait presque match nul dans le Kentucky face à Hillary Clinton, qui a gagné avec seulement 2000 voix d'avance. Chez les Républicains, primaire remportée dans l'Oregon, sans surprise, par Donald Trump, seul candidat encore en lice. La mobilisation contre la loi travail en France, journée de grève aujourd'hui à la SNCF. Des suppressions de trains sont prévues sur les TER au départ et à l'arrivée de Bâle. 3 TGV entre Paris et Genève seront aussi supprimés. Manifestation prévue aussi des policiers pour dénoncer un climat, je cite, anti-flic. Le député policier MCG Thierry Cherouti, sous enquête. Selon nos informations, il fait l'objet d'une procédure administrative pour plusieurs dérapages verbaux qui pourraient lui valoir une révocation. Thierry Cherouti a déposé un recours, verdict du tribunal de police vendredi. En tennis, Stan Wawrinka qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Genève. Le Vaudois a battu en 2-7 l'Espagnol Albert Ramos Vinolas. Il affrontera demain un autre Espagnol, Pablo Carreño Busta. Et puis Belinda Bencic n'ira pas à Roland-Garros qui débute dimanche. La Saint-Galloise est forfait à cause d'une blessure au dos. Les fans de foot ont eu rendez-vous ce soir à Bâle, finale de l'Europa League entre Liverpool et Séville. C'est à suivre sur RTS2 et dans nos rendez-vous d'info dès 20h10. Une journée sous le soleil avant l'arrivée d'averses parfois orageuses ce soir, 20 à 23 degrés au plus chaud de la journée. Demain, le temps sera très nuageux et pluvieux, surtout le matin. Retour du soleil et de la douceur vendredi.